Alors mon cher Thierry Lhermitte, ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale, vous vous êtes rendu dans le laboratoire de Marina Gvaskov au Centre de Recherche en Épidémiologie, merci pour la prononciation, et Santé des Populations, à Villejuif dans le Val-de-Marne, et elle est à la tête d'un groupe de recherche qui étudie l'endométriose.
Oui, Marina est épidémiologiste, avec son équipe elle a l'objectif d'améliorer la santé gynécologique et elle a participé à définir la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose en 2022. Et on est le deuxième pays au monde à se mobiliser après l'Australie. Et c'est justifié car vous allez voir que c'est très invalidant et qu'on connaît encore très peu de choses sur cette pathologie. Et ce qu'on sait d'abord, c'est une maladie gynécologique inflammatoire chronique qui se caractérise par la présence anormale de tissus semblables à l'endomètre. L'endomètre, c'est ce qui tapisse la cavité interne de l'utérus et qui se retrouve dans cette pathologie à l'extérieur de l'utérus où il forme des lésions, on va y revenir. Et environ 50% des cas sont d'origine génétique.
Et quels sont les symptômes de l'endométriose ?
Eh bien, ce sont surtout des douleurs et elles sont principalement liées au cycle menstruel. Donc, le plus souvent, les symptômes s'arrêtent avec la ménopause. Mais pas toujours. Ces douleurs peuvent être terribles. Ce sont des douleurs pelviennes pendant les règles, pendant les rapports sexuels, à l'évacuation d'urine, des selles, des douleurs abdominales chroniques. Il y a aussi des troubles digestifs et une grande fatigue. L'impact sur la vie des femmes est énorme. D'abord, c'est l'errance diagnostique qui en moyenne est de 7 ans entre le début des symptômes et le diagnostic. Et puis l'endométriose affecte tous les aspects de la vie. Études, emploi, carrière, famille, santé mentale. Et d'un autre côté, il existe aussi des cas asymptomatiques, découverts de manière fortuite, souvent à l'occasion d'un bilan de fertilité, car l'endométriose est une cause d'infertilité dans un tiers des cas.
Et quel est le diagnostic ?
Par échographie, voire par IRM. Quant au traitement, on donne des antalgiques, mais les douleurs sont souvent résistantes. Donc le plus souvent, le traitement est hormonal pour stopper les règles et réduire l'inflammation. Pour les douleurs neuropathiques, on donne des antiépileptiques, des antidépresseurs et parfois des dérivés morphiniques. Et puis dans certains cas, on retire les lésions par chirurgie.
Et où se situent ces lésions ?
Eh bien, elles peuvent se retrouver partout dans le corps, dans n'importe quel tissu ou organe, dans la région pelvienne, mais aussi ailleurs, par exemple sur le tube digestif. Et elles se présentent sous différentes formes qui peuvent coexister chez la même patiente. Ça va de petites taches colorées superficielles jusqu'à des formes profondes, des nodules au cœur des tissus. Et ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'étendue des lésions et les symptômes. Il y a des patientes qui s'ouvrent le martyr et qui ont juste de petites taches, à peine visibles, et d'autres qui ont des formes très profondes avec des invasions d'organes et qui n'ont pas de symptômes. C'est donc une maladie qui est hétérogène et très énigmatique.
Et combien de femmes sont touchées par l'endométriose ?
Alors on estime que ce sont 10% des femmes en âge de procréer, mais c'est très incertain car les études ne sont pas concordantes. Et c'est sûrement sous-estimé du fait de formes sans symptômes. Et c'est justement une partie de ce que tente découvrir l'équipe de Marina Gvaskov.
En quoi consistent ces recherches ?
C'est de l'épidémiologie, c'est-à-dire qu'elle étudie la répartition de la maladie et ses déterminants au niveau des populations. En bref, ça permet d'établir la fréquence, la répartition, les facteurs de risque, etc. C'est donc une approche qui permet de produire des connaissances très utiles à la prévention, qui est un des grands objectifs de l'équipe. Et c'est vraiment important car, à part ce dont je viens de vous parler, on connaît quasiment rien de l'endométriose. On ne sait pas si c'est une maladie qui évolue avec l'âge, si la maladie est plus fréquente aujourd'hui qu'avant, et je ne parle même pas des mécanismes. En 2018, Marina a contribué à une analyse des études déjà publiées sur les facteurs de risque. Conclusion, les seules données cohérentes montrent que l'endométriose est associée à un faible poids de naissance, à un âge précoce des premières règles, à des cycles menstruels courts et à un faible indice de masse corporelle.
On a donc vraiment besoin de la recherche pour pouvoir prévenir et soigner cette maladie.
Exactement. Et pour recueillir les données qui manquent pour comprendre la maladie, l'équipe de Marina Gvaskov coordonne une grande étude nationale qui s'appuie sur des cohortes en population, c'est-à-dire des groupes de personnes volontaires qui participent à une recherche. Ces cohortes, qui existent déjà depuis longtemps, peuvent réunir des centaines de milliers de personnes et être suivies durant des dizaines d'années. Il y a notamment de grandes cohortes mère-enfant, des cohortes chez l'adulte et une cohorte transgénérationnelle avec des femmes suivies, puis leurs enfants, puis leurs petits-enfants, etc.
Comment se déroulent ces études ?
Eh bien, les personnes répondent à des questionnaires sur l'endométriose, son diagnostic, ses symptômes, etc. Et des liens seront établis entre les données cliniques et les données sur la pollution, les expositions professionnelles, la nutrition, etc. Et ce projet est unique en Europe. Ces études vont enfin permettre d'établir la fréquence de la maladie, les facteurs de risque environnementaux, génétiques, etc. Et la Fondation pour la Recherche Médicale finance plusieurs études dans ce laboratoire. Une sur les liens entre l'endométriose et les polluants organiques persistants, les fameux POP, qu'on trouve partout. Mmh. Elle est menée conjointement par German Cano Sancho et Marino Kvasov. Le projet aussi de post-doctorat d'Hélène Amazouz, qui cherche à comprendre le lien entre le risque d'endométriose et les expositions environnementales in utero et après la naissance, c'est-à-dire la nutrition, l'exposition aux pesticides domestiques, en croisant les informations avec les données de pollution de l'air. Et enfin, le projet de thèse du docteur Najib Mokraoui, qui vient de Montréal, et étudie les maladies associées à l'endométriose et les liens avec les symptômes, la douleur et la qualité de vie. Et pour cela, il travaille avec une cohorte particulière qui s'appelle COMPAR, pour Communauté de Patients pour la Recherche, et qui est composée uniquement de personnes avec une maladie chronique.
Et comment ça marche ?
C'est une plateforme de recherche participative en ligne. Alors il suffit d'aller sur le site et de s'inscrire pour participer en répondant à des questions et en transmettant des informations sur sa maladie. C'est évidemment très sécurisé. Il y a autour de 60 000 patients aujourd'hui avec différentes maladies, dont l'endométriose. Toutes les femmes concernées peuvent s'inscrire, ça fait avancer la recherche. Le site, c'est compare.aphp.fr. L'équipe a commencé à avoir des résultats, par exemple sur l'errance diagnostique, le ressenti des femmes, l'évolution des douleurs au cours du temps, etc. Donc, les choses progressent.
compare.aphp.fr. Merci beaucoup Thierry de mettre en lumière tous ces chercheurs dans les laboratoires. Comment aider la Fondation pour la Recherche Médicale, la FRM ?
Eh bien, sur Internet, sur le site frm.org, ou si vous voulez donner 10 euros qui seront prélevés sur votre facture téléphonique en envoyant le message don, D-O-N, au 92 300.
92 300 et vous envoyez le mot don, D-O-N, ou vous pouvez donner également sur frm.org.